RFI, grand reportage.
Camille Magnard.
Nous sommes dans l'enceinte de la mine de charbon de Tchaïkino, au cœur de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Derrière la porte rouillée que pousse le responsable de la sécurité, Roman Soroka, nous entrons dans un bâtiment industriel qui pourrait sembler à l'abandon. C'est pourtant bien là que se trouve la cage de fer qui descend trois fois par jour les mineurs de Tchaïkino sur leur lieu de travail.
Ici, c'est le puits qui descend dans la mine. Vous voyez, on a installé des grilles pour ne pas risquer de tomber. Cette cage emmène les mineurs à 651 mètres sous terre et ensuite, ils continuent de descendre pour rejoindre leur poste de travail dans des wagonnets et par un système de tapis roulant jusqu'à 1160 mètres de profondeur.
Chaque jour, il faut à ces travailleurs plus d'1h20 de trajet dans des wagons brinque-ballants à travers des couloirs mal entretenus pour rejoindre le fond de la mine. Ici, dans le Donbass, on exploite des couches de charbon très profondes et particulièrement dangereuses, comme le reconnaît Roman Soroka.
Les mineurs qui travaillent à plus de 1000 mètres de profondeur sont exposés à des conditions très difficiles et dangereuses. Il fait très chaud, il y a beaucoup de poussière et surtout beaucoup de gaz potentiellement explosifs. Mais nous les sélectionnons et nous les formons spécialement. On vérifie qu'ils ont une santé solide, un peu comme des cosmonautes.
Dans les villes autour de Donetsk, la capitale du Donbass, on est mineur de père en fils quand on n'a pas choisi la métallurgie. L'acier et le charbon, ce sont les deux mamelles de cette région qui a été l'un des fleurons industriels de l'URSS. Depuis toujours, les mines du Donbass sont connues pour être aussi dangereuses qu'elles sont riches en minerais. Et depuis l'indépendance de l'Ukraine il y a 17 ans, leur exploitation est de plus en plus meurtrière. Des accidents mortels à répétition et des statistiques frappantes. Près de 7000 personnes auraient trouvé la mort dans ces mines depuis la chute de l'URSS, soit en moyenne 3,5 mineurs tués par million de tonnes de charbon extrait. Autant de chiffres qui font de l'Ukraine, après la Chine, le deuxième pays où l'on meurt le plus pour du charbon. Le 18 novembre 2007, une explosion de méthane à la mine de Zasiadko, 106 morts. Le 23 mai 2008, 11 morts dans un incendie à la mine de Krasnolimanskaya. Le 8 juin 2008, 13 morts enterrés vivants dans un effondrement au fond de la mine de Karla Marxa. Ces accidents sont les derniers d'une longue liste qui n'en finit pas de s'allonger à un rythme toujours plus meurtrier. Nous rencontrons Sergueï Kerouchka sur son lit d'hôpital au service des grands brûlés de Donetsk. Sergueï fait partie des rares survivants de cette dernière tragédie en date, celle de Karla Marxa.
Quand j'ai regardé ma montre, il était 5h10 du matin. Ensuite, je me suis fait la réflexion qu'il faudrait penser à faire des travaux sur le puits de la mine et vérifier les câbles.
Sergueï travaille depuis 10 ans à la mine de Karla Marxa et comme chaque jour, ce 8 juin, il s'occupait de la vérification des machines au moment du drame.
J'étais dans mon local à 875 mètres de profondeur, j'étais assis sur un banc. Et soudain, sous le banc, j'ai senti un immense souffle, très chaud. J'ai été carrément renversé par l'explosion et sous moi, un trou s'est ouvert. Dans la pièce, tout a été aspiré par le souffle. Les appareils, les meubles, tous les murs qui sont très épais ont aussi été détruits. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, mes jambes refusaient de fonctionner. Tout avait disparu, il ne restait rien, que de la terre partout autour de moi.
À la mine de Tchaïkino aussi, les accidents, parfois mortels, font partie des risques du métier. Le dernier en date remonte au mois de février et il a fait 2 victimes. Bien souvent, chez les mineurs comme chez les responsables des mines, on préfère se résigner et accuser la fatalité ou encore les conditions naturelles. Viktor Poustaviet, c'est l'ingénieur en chef de la mine.
Les mines de charbon de la région sont parmi les plus dangereuses d'Ukraine, mais aussi de toute l'Europe. Elles sont très profondes et donc dangereuses pour plusieurs raisons, notamment la fragilité des couches que l'on exploite, la forte présence de gaz méthane et de poussière. Notre mine de Tchaïkino est l'une des plus profondes du pays. À l'heure actuelle, les mineurs travaillent à 1160 mètres de profondeur. Je vous laisse imaginer comme il est difficile de travailler à plus d'un kilomètre sous terre.
Ces conditions de travail, Anatoli Akimoshkin les connaît bien. Il a longtemps travaillé comme mineur avant de prendre la tête dans la région du syndicat indépendant des mineurs d'Ukraine. Pour lui, pas question de se résigner à voir ses collègues ne pas remonter de la mine.
Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est la profondeur qui justifie les mauvaises conditions de sécurité dans lesquelles travaillent nos mineurs. Regardez par exemple en Allemagne. Actuellement, ils travaillent à plus de 1500 mètres de profondeur et les mineurs ne meurent pas dans des accidents. La profondeur, bien sûr, renforce certains facteurs qui rendent le travail plus dangereux, mais la cause réelle de cette mortalité dans les mines ukrainiennes, ce sont les conditions de sécurité dans lesquelles travaillent nos mineurs.
Dans la mine de Tchaïkino, comme dans la plupart des autres mines qui sont restées propriétés de l'État, les bâtiments, le matériel, mais aussi tout le système de sécurité, tout cela date de l'époque soviétique. Le système de prévention des accidents se concentre dans le bureau du dispatcher. C'est là que l'on centralise les données qui permettront de prévoir les risques au fond de la mine. On trouve bien sûr quelques ordinateurs, un télécopieur, mais tout passe encore par le téléphone. Le dispatcher doit en permanence garder un œil sur la pression, la chaleur et la présence de gaz méthane dans les couloirs de la mine. Mais les moyens manquent et ce sont les mineurs qui en payent le prix. C'est ce que constatent au quotidien les inspecteurs du service de la sécurité au travail de Donetsk. Marina Nikitina est la porte-parole de cette administration en charge de faire respecter les règles élémentaires de sécurité dans les mines.
La principale cause des accidents, c'est que les règles de sécurité ne sont pas respectées au quotidien. Chaque semaine, rien que pour la région de Donetsk, nos inspecteurs qui travaillent dans les mines trouvent plus de 5000 violations des conditions légales de travail et de sécurité. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours très grave, mais si on considère qu'il y a menace pour la vie des travailleurs ou si l'on détecte un risque d'explosion, on procède à la fermeture temporaire de la mine.
Et c'est ce qui s'est passé début juin sur la mine de Karla Marxa, ou plutôt c'est ce qui aurait dû se passer, comme nous l'explique Roman. Roman est un autre survivant de l'explosion qui a fait 13 morts ce 8 juin 2008. Il travaillait, lui, à l'extérieur de la mine, mais l'incendie qui s'était déclaré 1000 mètres plus bas s'est engouffré dans le puits de la cage et s'est propagé à la surface. Gravement brûlé au visage et aux membres, Roman a passé lui aussi plusieurs mois sur un lit d'hôpital où il a accepté de témoigner.
Les conditions de sécurité n'étaient pas du tout respectées. Aucun mineur n'aurait dû travailler à ce moment-là dans la mine. Je le sais parce que la veille de l'accident, les inspecteurs sont venus et ils ont ordonné qu'on arrête de travailler pendant 4 jours. Mais la direction n'en a pas tenu compte. Ils ont continué à nous envoyer dans la mine. Et tous, on y est allés, on n'avait pas le choix. On nous a dit « Et comment tu vas gagner de l'argent si tu refuses de travailler ?»
Le choix, Roman ne l'a pas eu et il ne l'aura sans doute pas plus à sa sortie de l'hôpital. Il sait qu'après avoir retrouvé l'usage de ses bras et de ses jambes, il devra retourner travailler à la mine pour y gagner les 280 euros par mois qui font vivre sa famille. Car c'est aussi le système de salaire qui est montré du doigt pour expliquer ces accidents mortels à répétition. Les travailleurs sont payés au rendement. Chaque jour, avant de descendre dans la mine, chacun prend connaissance des chiffres du plan pour la journée, cette quantité de charbon qu'il va falloir extraire. Le salaire sera ensuite calculé en fonction de ce que chacun aura travaillé. Un système qui, poussé à l'extrême, justifie bien souvent des horaires à rallonge, un mépris généralisé des règles de sécurité et donc une prise de risque accrue pour les mineurs. Anatoly Akimoshkin.
Pour nous, ce système de salaire au rendement, c'est un système d'exploitation pure et simple des mineurs et c'est aussi l'une des causes principales des tragédies que nous connaissons dans nos mines. Aujourd'hui, en pratique, les mineurs n'ont pas la possibilité de remonter à la surface ou de refuser de travailler si leur sécurité ou leur vie sont en danger. Si à la fin de la journée, ils n'ont pas extrait la quantité de charbon prévue, alors ils perdent une partie de leur salaire. Donc, pour améliorer la sécurité des mineurs, il faut aussi réformer le mode de salaire et mettre en place un salaire payé à l'heure qui leur assure un salaire décent et ne les oblige pas à travailler au péril de leur vie.
Un projet de loi dans ce sens est en attente sur l'agenda du Parlement ukrainien. Mais en ces temps de crise politique et d'instabilité chronique, les mineurs du Donbass vont sans doute devoir patienter avant que leur cause ne soit entendue à Kiev. Et au-delà de la question des salaires, c'est celle des moyens donnés par l'État à ces mines publiques qui est posée. Maria Nikitina du service de la sécurité au travail.
La profession de mineur a toujours été dangereuse, mais du temps de l'URSS, elle était aussi considérée comme héroïque, au même titre que les cosmonautes, par exemple. Dans les familles et au sommet de l'État, on était fiers de nos mineurs et ils gagnaient des salaires que leur enviaient les autres travailleurs. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé dans les mentalités et l'État doit à tout prix redonner son prestige à cette profession. Mais le pays est en déficit, il n'a pas les moyens de construire de nouvelles mines et les salaires ont fortement baissé depuis l'URSS. Aujourd'hui, dans la région de Donetsk, il y a encore 150 mines qui fonctionnent. Et il est de plus en plus dur de recruter des ingénieurs formés et compétents dans les technologies minières. C'est un vrai problème.
Les mines de charbon n'attirent peut-être plus les cadres, mais elles font toujours travailler plus de 270 000 personnes en Ukraine. Dans les cités ouvrières autour de Donetsk, au pied des terrils qui ponctuent l'horizon, la mine reste souvent le seul employeur quand on est fils de mineur ou de métallurgiste. On est loin de la gloire du Donbass et de sa légendaire joie de vivre que chantaient les vieux refrains soviétiques. Mais dans le Donbass, comme ailleurs en Ukraine, il faut bien gagner sa vie et celle de sa famille. Et ce que l'on ait 20 ans ou bien plus de 60, selon les syndicats, plus de la moitié des mineurs continueraient à travailler après l'âge de la retraite. Une conséquence de la baisse des salaires et des pensions, mais aussi de la perte de prestige des métiers de la mine. Dans les ateliers de réparation du matériel sur le carreau de la mine de Tchaïkino, les hommes sont comme les vieux chariots qu'ils réparent. Eux aussi ont toujours été là depuis la création de la mine au début des années 60. Roman Soroka, responsable de la sécurité de la mine.
Chez nous, la plupart des hommes qui travaillent à la surface sont des retraités. Mais ils continuent de travailler parce qu'ils veulent aider financièrement leur famille avec un salaire complémentaire. Cela, par exemple, ils réparent le matériel abîmé dans les ateliers à la surface avant de le renvoyer dans la mine.
Depuis qu'elle est indépendante, l'Ukraine ne verse plus suffisamment d'argent pour améliorer les conditions de sécurité et moderniser ses mines.
Anatoly Yakimoshkin, vice-président du syndicat indépendant des mineurs.
Et comme résultat, на сегодняшний день.
Le résultat, c'est que l'état des équipements s'est progressivement dégradé dans toutes les mines du pays, ce qui rend toujours plus dangereux le travail des mineurs. Donc, pas assez d'argent, mais aussi, quand cet argent est finalement versé par l'État, il disparaît aussitôt, détourné par ses dirigeants. Pour le dire franchement, les directeurs des mines volent cet argent qui devrait revenir aux mineurs.
En un mot, une corruption endémique qui gangrènerait l'ensemble de l'industrie minière ukrainienne, qu'elle soit publique ou privée. Une corruption organisée, née au cours des dernières années, celle de l'indépendance de l'Ukraine et de la privatisation des mines et des usines. Mykhailo Volynets est député du parti politique de Yulia Tymoshenko. Il est aussi le président du syndicat indépendant des mineurs.
La privatisation de certaines mines a eu lieu au début des années 2000, sous la présidence de Léonid Koutchma. Les oligarques de la région de Donetsk ont acheté pour une bouchée de pain, parfois même pour rien, ces mines, parce qu'ils étaient proches du pouvoir. Vous savez, cette région très riche du Donbass est revenue à l'Ukraine à la chute de l'URSS. Et depuis, un groupe d'oligarques, de criminels devrais-je dire, se sont enrichis en faisant main basse sur toutes les usines et sur les mines. Et aujourd'hui, ils comptent parmi l'élite économique et politique de notre pays. À la tête de ce clan, on retrouve Rinat Akhmetov, qui est depuis peu l'homme le plus riche d'Europe, et Viktor Yanukovych, qui au début des années 2000 a été Premier ministre de l'Ukraine.
Aujourd'hui, 140 des 165 mines du Donbass restent publiques. Ce sont les plus vétustes, qui fonctionnent souvent à perte. Les plus modernes et les plus rentables, celles qui fournissent à elles seules 48% du charbon ukrainien, sont désormais entre les mains des oligarques locaux. Elles ont été intégrées aux immenses empires industriels de ces jeunes milliardaires qui regroupent les mines de charbon, les aciéries, les réseaux d'énergie et s'attaquent à présent aux télécommunications et aux médias. Mais c'est bien dans les mines publiques que se concentre le gros de la corruption, selon Mikhailo Volynets.
Il y a plusieurs moyens de détourner l'argent. D'abord, les oligarques soutenus par les directeurs de mines vendent du charbon de mauvaise qualité au prix fort. Deuxième cas de figure, c'est quand ils achètent pour la mine des équipements vieux et de mauvaise qualité qu'ils ont récupérés dans des mines fermées et ils font payer à l'État le prix du matériel neuf, bien sûr. Il arrive aussi que dans les wagons de charbon qu'ils fournissent aux centrales thermiques du pays, ils cachent des tonnes de déchets pris sur les terrils sous une couche de vrai charbon. Et à chaque fois, c'est l'État qui paye la différence de prix entre le coût réel et le prix de vente. Et cet argent part dans la poche des oligarques.
Chaque année, l'État ukrainien dépense 1,1 milliard d'euros pour faire perdurer tant bien que mal son industrie houillère. Quelle somme est vraiment réinvestie dans l'amélioration des mines? Impossible de le chiffrer. Mais malgré tout, cette industrie du charbon en apparence vieillissante, meurtrière et corrompue incarne toujours une richesse, une fierté que l'Ukraine voudrait valoriser. Dans un monde où les prix du pétrole plafonnent, le charbon est une énergie de plus en plus demandée. L'Ukraine ne peut pas et ne doit pas se passer de son charbon. C'est l'avis d'Anatoli Akimoshkin.
Aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas d'alternative au charbon. On estime que les réserves en charbon dans le sous-sol ukrainien suffiront pour au moins 400 ou 450 ans. Et puis, notre pays a des ressources en gaz et en pétrole qui sont loin d'être suffisantes à ses besoins. Alors, il ne reste que le charbon sur lequel s'appuyer pour rendre l'Ukraine indépendante du gaz que lui vend la Russie, toujours plus cher. C'est pourquoi, aujourd'hui, la seule stratégie valable pour l'Ukraine, c'est d'investir de l'argent dans le développement de ses mines et de transformer les centrales électriques qui fonctionnent actuellement au mazout ou au gaz en centrales à charbon.
Investir massivement dans le charbon, relancer l'extraction et se lancer dans l'exportation, le projet est ambitieux. Mais cela passe par des mines toujours plus profondes et donc plus dangereuses, alors que les moyens et les infrastructures semblent déjà dépassés. L'ingénieur Viktor Pustaviet, dans son bureau de la mine de Tchaïkino, déplie la carte sur laquelle s'entremêlent les couloirs de la mine.
Voici la limite de notre territoire, c'est là que nous exploitons le charbon. Ici, c'est l'endroit que l'on exploite actuellement. Et quand nous arriverons à cette limite, nous cesserons le travail. En attendant, en ce moment, nous travaillons à une profondeur de 1160 mètres. Mais dans le futur, on va continuer à aller plus profond dans cette direction, sans doute jusqu'à 1600 mètres. Et le fait est que mathématiquement, plus on va aller profond, plus le danger va augmenter.
La solution passerait sans doute par la privatisation d'une partie des mines publiques. Le gouvernement de Yulia Tymoshenko a d'ores et déjà présenté un projet de loi dans ce sens, mais les syndicats sont sceptiques, car ici, privatisation a toujours été synonyme de corruption, de détournement d'argent public, et parce que les intérêts des investisseurs privés ne seront pas ceux des mineurs. La plupart des mines fonctionnent à perte et sont en trop mauvais état pour attirer des acheteurs éventuels qui pourraient être tentés de les fermer les unes après les autres. Et cela, dans le Donbass, personne ne veut s'y résoudre, malgré le danger et la mort omniprésente.
Что ты знаешь о солнце, если в шахте ты не был, если ходишь под солнцем с утра? Только тот ценит солнце и высокое небо, кто поднялся с зарей на гора. Подруги на шахтерские руки, с них Донецкий не смыт уголек.